Mesdames, Messieurs, alors je vous demande de m'excuser, mais il fait 30 dehors, mais j'ai une certaine difficulté à m'exprimer parce que j'ai attrapé la crève, mais c'est plutôt la clim plutôt que le 30. Je préfère le 30 que la clim, mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis François Cornu, je suis le directeur général de Domo France. Et bien, déjà, bienvenue et heureux que vous soyez évidemment présent à cet échange. Comme ma voix est très désagréable, je ne vais pas parler très longtemps parce que j'ai assez de personnes autour de moi, de collaborateurs et d'architectes qui vont pouvoir vous présenter ce projet. C'est juste vous dire évidemment que Domo France, au travers de ce projet, Brasa, démontre encore évidemment son implication dans les grands projets de la ville de Bordeaux. Et là, en l'occurrence, donc, il s'agit évidemment d'un projet assez emblématique au regard donc, des surfaces et du développement en fait, de l'offre qu'il va décliner. Alors, on est un peu au démarrage, puisque comme vous le verrez, il y a encore un certain nombre de questionnements, un certain nombre d'incertitudes ou de positionnements à avoir, notamment sur l'aménagement. On aura peut-être l'occasion en deux secondes de répondre s'il y a des questions sur la problématique des voiries, même si je ne vais pas soulever le fond du sujet, qui est plutôt un sujet de qui fait quoi et avec quel financement, parce que c'est aussi évidemment le nerf de la guerre. Domo France a acquis un certain nombre de terrains sur ce secteur déjà en 2011. Et bien évidemment, il s'est mené une réflexion dans le cadre de l'aménagement global du quartier. Et au moment où je vous parle, nous avons aussi convenu avec la ville un certain nombre d'échanges fonciers pour permettre justement une cohérence de l'aménagement de cet îlot. Et c'est ce que nous allons donc vous présenter. Et dès que la présentation sera terminée, je vous propose évidemment de répondre à toutes les questions que vous seriez susceptibles de vous poser. Merci encore d'être présent. Donc je passe la parole à mon collaborateur Eric Mangiarotta qui va vous présenter le projet.
Merci. Bien bonjour. Voilà, donc il s'agit, d'un projet qui s'inscrit dans un ensemble, celui du futur quartier de Brasa, dont Youssef Thomé, et l'architecte...
J'ai oublié de présenter les architectes, ils seraient bien.
Oui, effectivement. Donc nous sommes accompagnés donc de M. Arocharen, architecte, et de Édouard François, également architecte, qui vont d'ailleurs faire une présentation tout à l'heure de leur perception et de leur approche du dossier. Voilà, donc comme je le disais, donc il s'agit d'un projet qui s'inscrit totalement dans la vision qu'a développée et déployée Youssef Thomé sur ce quartier. Voilà donc le périmètre de Brasa, qui est très très vaste, qui regroupe un certain nombre de parcelles très grandes sur lesquelles Domo France a travaillé depuis 3-4 ans et avec quelques succès, puisque donc, nous avons réussi à maîtriser un certain nombre de terrains dont ceux que nous allons présenter aujourd'hui. Il s'agit donc des îlots D3 et C16. Donc, vous apercevez donc sur ce slide les fonciers qui sont concernés par le premier projet de Domo France. Donc, je les ai désignés tout à l'heure, les îlots D3 et C16, qui correspondent à pratiquement 1,5 hectare de fonciers. Les terrains maîtrisés par Domo France vont également, je dirais, être renégociés avec la ville de Bordeaux à travers un certain nombre d'échanges fonciers qui vont permettre de respecter totalement le plan masse que Youssef Thomé a dessiné. Et en premier lieu, je dirais, l'intégration dans ce plan d'équipement public qui va nécessiter un échange foncier entre la ville et Domo France. Donc nous avons une... Vous voyez, hein, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc le foncier actuel de Domo France avec le liseré vert, vous le voyez apparaître, et la maîtrise foncière sur la totalité de l'îlot en aplat orange qui correspond aux échanges fonciers que nous allons opérer donc, avec la ville de Bordeaux. Voilà, donc il s'agit d'un projet, de programmation mixte où on va alterner donc les logements locatifs sociaux, l'accession sociale et la promotion privée, en ajoutant l'artisanat. Donc ce contenu programmatique répond strictement aux intentions et aux orientations de l'atelier de Brazza, qui est l'instance qui, j'allais dire, pilote, gouverne la totalité de ce qui va se produire sur le quartier, un petit peu à l'image d'ailleurs de ce qui s'est produit sur les bassins à flot avec l'atelier des bassins. Donc là, on reproduit, je dirais, cette méthodologie, cette façon de faire de l'urbanisme qui est très participatif avec l'atelier. Donc, qui nous a donc donné les orientations que vous voyez apparaître ici, donc 88 logements locatifs sociaux, 42 logements en accession sociale et 88 logements libres, avec en plus un lot qui sera réservé à l'artisanat et du stationnement, notamment à travers un parking silo. Ah, voilà, ben c'est fini. Merci. Ça marche pas. Ah, si, c'est bon. On est sorti du cadre, je ne sais pas. S'il y a un technicien ou Charlélie, tu peux. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez. Il est parti, bon, c'est pas grave. Bon. Oui, je voulais. Ah. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que cette répartition, je dirais, est très. J'aurais bien aimé avoir l'autre diapo. Voilà, celle-ci, voilà. Voilà, vous voyez donc la distribution donc des produits sur l'îlot qui est très mélangée. Je veux dire que je crois que l'esprit dans lequel l'atelier de Brazza souhaite que l'on travaille, c'est effectivement celle de cette mixité à la fois sur le plan, je dirais, des logements, donc, mais également cette mixité spatiale où on ne veut pas avoir, je dirais, des concentrations ou des surconcentrations qui prédominerait, je dirais, dans chacun des deux îlots. Donc on a mélangé et on a panaché. Alors, je vais aller très vite là-dessus, parce que je pense que c'est plutôt aux architectes de s'exprimer sur ces questions-là, mais je rappellerai juste, pour ma part, deux, trois éléments. D'abord, effectivement, on va travailler avec nos architectes sur les typologies qui ont été déterminées par Youssef Thomé, à savoir les bâtiments sur pilotis, que vous voyez donc apparaître ici avec l'image qui a été produite par Youssef Thomé. Ce n'est pas l'image du projet de Domo France ici, c'est l'image qui a été produite par l'architecte urbaniste de la zone, donc Youssef Thomé, et qui donne une interprétation ou une orientation qui doit être celle, vous le voyez ici, donc, des bâtiments sur pilotis. Nous, avec notre architecture et nos architectes, nous allons essayer d'exprimer au mieux, nous rapprocher au mieux de ce concept, bien sûr. Et donc, vous voyez les bâtiments sur pilotis, donc positionnés, vous les voyez en vert, vous voyez apparaître nos parcelles avec un liseré blanc, donc positionnés le long de cette voie centrale, qui sera donc une contre-allée verte, où les liaisons douces seront privilégiées, donc. Tout le long donc des bâtiments sur pilotis. Les échoppes, qui sont donc le deuxième élément de la typologie bâtie qui a été déclinée par Youssef Thomé. Donc les échoppes, de la même manière, donc sont orientées le long d'une voie à créer qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez une image qui est également une image produite par Youssef Thomé et qui donne encore une fois l'orientation vers laquelle nous devrons tendre, nous autres, avec nos architectes. Donc vous voyez, donc cela représente 26 logements alignés donc le long de cette rue à créer. Et enfin, la troisième typologie, les volumes capables, qui relèvent, je dirais, d'une catégorie très particulière, puisqu'il s'agit donc de bâtiments qui, j'allais dire évolutifs, en tout cas à l'intérieur desquels il y aura encore une marge, j'allais dire de manœuvre, pour faire évoluer plus tard donc ces bâtiments avec leurs futurs occupants. Donc vous voyez encore une fois l'ambiance qui se dégage de l'ensemble et la position que vont occuper ces volumes capables dans notre plan masse, donc sur le côté gauche, là ici, le long d'une voie qui est également à créer pour 32 logements. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce qui me concerne. Je vais passer donc la parole à, je crois que c'est vous, non, c'est vous qui en premier, donc à Monsieur Harold Charen, donc l'un des deux architectes qui intervient pour le compte de Domo France et de l'atelier de Brazza, hein, voilà, sur notre foncier.
Bon, ben alors, Cécile et moi, d'abord, bonjour. Et puis, deux mots quand même pour resituer le projet, parce que nous, c'est vrai que c'est un projet qui nous a énormément intéressés, parce que c'est un projet très ambitieux qui proposait finalement une nouvelle lecture de la ville, du territoire, et puis un nouveau rapport au fleuve, au paysage. On n'est plus dans un contexte urbain minéralisé. Enfin, le projet Youssef Thomé propose en fait de récupérer un petit peu les trames agricoles pour alterner en fait les séquences bâties, les séquences paysagées. Il propose en fait un parcours urbain paysager, il propose un paysage. C'est une nouvelle relation finalement entre la végétation, le paysage et l'architecture et le bâti, et qui décale complètement le regard. On est sur des notions moins denses, mais on est sur une notion où finalement architecture et paysage vont se développer de concert, et c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressé. On s'inscrit, alors je sais pas, je dois faire défiler comme ça, c'est ça là, je sais pas comment ça marche le truc là. Ah oui. Oui, ça, oui, mais ça, je ne suis pas... Voilà, oui. Alors, voilà, nous, on travaille sur l'îlot C16, hein, qui s'inscrit, en fait, le long d'une lanière végétale et qui est bordée, en fait, sur sa droite par une lanière qui est très, très minéralisée. Et c'est donc, je vous disais, on voit bien ces lanières, en fait, qui s'inscrivent perpendiculairement au fleuve et qui inscrivent des perspectives, finalement, de la profondeur vers le fleuve et qui sont abritées par une végétation assez dense. Nous, on travaille donc sur un îlot qui est en bordure d'une grande allée verte, desservie sur l'arrière par une voie très minéralisée. Et on voit en coupe s'inscrire le projet. C'est un projet qui se lit en séquence et en coupe. Et on va passer, nous, sur notre îlot, progressivement, finalement, dans un univers très minéralisé. C'est l'univers de la rue. Hein. On voit à gauche ce que Youssef Thomé avait produit. Et puis nous, on a montré un petit exemple, en fait, d'univers minéralisé. L'idée, c'est d'avoir une rue qui est la rue bordelaise classique, la rue des Échoppes en pierre, avec un sol qui est un sol minéral, une façade minérale, et quelque chose qui se développe ensuite sur l'arrière. C'est le principe des Échoppes. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a l'introduction d'un mode de distribution des logements qui est celui de la cente, qui est quelque chose de peu courant qu'on rencontre peu couramment dans la ville dite classique, c'est-à-dire qu'on emprunte un escalier, on grimpe sur la plateforme et là on circule entre deux murs, c'est une ruelle un petit peu étroite, et se définissent des seuils, des entrées, des espaces semi-publics, semi-privés. Et c'est ça en fait qui était intéressant dans le projet, c'était l'introduction de ce nouveau mode de desserte qui décale complètement le parcours urbain connu de manière classique. Là, on est sur l'arrière des logements, on est sur des jardins qui sont suspendus puisqu'ils sont posés au-dessus d'un parc de stationnement. Et on a donc on voit en haut ce que Youssef Thomé avait lui un petit peu pensé, projeté. Et puis on voit en bas des exemples, un qui sont empruntés à d'autres architectes, d'autres, ça s'est fait ailleurs. Hein. Et puis les Échoppes sur le toit, on n'en a pas fait beaucoup sur Bordeaux, donc on avait du mal à trouver des exemples. Mais on a essayé de figurer à travers quelques exemples ce que ça pouvait devenir. Enfin, l'idée, il y a deux idées intéressantes, c'est l'idée d'avoir une espèce de front, mais qui est libéré des clôtures hautes. Bon, ça, c'est quelque chose qui sera certainement à fouiller et à travailler, parce que ça pose des problèmes de promiscuité, de vue, de vis-à-vis. Et il y a aussi les vis-à-vis depuis les parcelles sur pilotis. Donc c'est des sujets qu'il ne faut pas ignorer, mais c'est là qu'il y a on a un travail finalement d'écriture architecturale qui viendra nourrir en fait le propos, pour passer en fait du concept à la réalité vécue. Là, c'était la partie qui nous intéressait le plus, parce qu'elle introduisait véritablement un nouveau rapport à la ville. C'est l'idée que l'espace naturel peut être l'espace public. C'est l'idée qu'en libérant le sol, on parcourt un espace paysager continu et qui est un véritable espace de desserte, un espace de jeu, qui est un espace public. Donc ça génère pour l'architecte ou l'aménageur des obligations, c'est-à-dire que la sous-face devient une façade, que les escaliers deviennent des objets publics, que les pilotis, ça devient une forme de balai, quoi. C'est un espace à traiter. Là, on l'a figuré par quelques exemples de projets qu'on avait traités. Là, on voit le travail sur les sous-faces. surtout, là on voit donc, le travail sur les pilotis et sur les sous-faces, sur les sols. C'est-à-dire qu'on crée, on commence à développer de nouveaux espaces publics, on commence à travailler la sous-face, on travaille le poteau, tout s'écrit de manière différente que le rapport en fait, de la ville en géométral, frontalement. C'est-à-dire qu'on crée, c'est le parcours qui finalement va venir sculpter l'espace, et puis la manière dont les pieds vont fouler le sol, ça va être de l'espace public. Donc ça génère aussi, dès l'instant où on est sur pilotis et qu'on n'est pas posé au sol, on n'est plus dans un contact minéral. On n'a pas assuré ce contact de minéralité qui fait que le bâtiment s'ancre dans le sol. On s'élève, donc on peut travailler avec des en filière sèche, avec des constructions légères, ou les espaces greffés, les balcons, les escaliers, la peau des façades, deviennent l'expression essentielle. On n'est plus sur de la pierre, on n'est plus sur du béton. Voilà, est-ce que nous on appelle les espaces greffés. C'est vrai que c'est des espaces dans lesquels, dès l'instant où on s'élève et qu'on se met dans la canopée, qu'on se met à hauteur des arbres, la végétation, ça ne devient pas seulement un objet de décor. C'est un outil de confort. Ça apporte de l'ombre, ça permet de s'isoler des vues et des promiscuités, surtout quand on est dense. Et c'est pour ça que je disais que c'est un travail qui tisse tout de suite le lien entre architecture et nature. Et puis on parlait des parcours, parce que c'est vrai que quoi qu'on fasse, quel que soit le raisonnement, ce qui compte c'est l'espace parcouru, et puis finalement les surprises et les qualités d'espace qu'on va générer. Et ce qu'on aime bien nous dans ce type d'urbanisme et de projet, c'est quelque part l'accident, c'est quelque part un parcours qui n'est pas écrit d'avance et qui se renouvelle sans cesse, parce que la végétation est immaîtrisable et parce qu'aussi le fait de disposer comme ça des bâtiments de manière, on n'est pas vraiment aléatoire, mais de manière peut-être moins réglée que dans un urbanisme plus classique, on obtient des parcours un peu étonnants et inattendus. Voilà, pour moi, c'était quelques images pour montrer sur des bâtiments qu'on a réalisés, les fusions architecture-nature. Bon, mais ça se fait ailleurs. Je ne pense pas qu'on atteigne très rapidement ce type de contact, parce que c'est un projet qui va demander de la maturité, donc il va demander de la patience, de la pédagogie. Vous pourrez expliquer aussi aux gens quels sont les résultats attendus et le temps qu'il faudra pour les attendre et pour les atteindre. Et il faudra aussi pas mal de discipline pour qu'au sol, la végétation puisse se répandre et puisse croître. Voilà. Là, c'est un projet qu'on a réalisé à Bayonne pour le col.
Il y a un point que je souhaite que vous travailliez plus particulièrement dans la présentation que vous faites, c'est la notion de la densité et l'appropriation de cette densité par les habitants. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que sur les diapos que vous montrez avant, on voit qu'il y a un espace évidemment très un peu confiné quand même, hein, dans les espaces de vie et dans les partages entre les personnes, ce qui est une très bonne chose. Mais encore faut-il que vous ayez bien réfléchi au fait que si j'ouvre ma fenêtre, que je suis dans ma salle de bain, je ne vois pas la personne qui est juste en face au même endroit. Ça paraît, excusez-moi, je vais peut-être dire des choses qui paraissent très simplistes, mais de grâce, messieurs les architectes, essayez de vraiment appréhender ce sujet-là, qui est un sujet complexe, parce qu'après, il y a des cohérences, évidemment, architecturales à tenir, mais le vécu, parce que nous, après, derrière, évidemment, on va gérer pendant 50 ans ces logements. On a besoin aussi d'avoir cette prise en compte du vécu des occupants.
Non, mais c'est un sujet qu'on traite. Hein. Et c'est vrai que nous, quand on parle d'espace greffé sur le logement, on aime bien venir mettre devant les espaces de vie des espaces qui sont de véritables espaces de filtre, c'est-à-dire qui filtrent le regard de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Parce que dès qu'on est dense, effectivement, on a le problème des vues et des promiscuités. Il faut que, pour que la terrasse soit utilisée, il faut qu'elle soit vivable. Et ce sont des, bon, là, si vous le regardez un peu en détail, en fait, il n'y a aucun balcon n'est par exemple ajouré sur la partie du garde-corps. Enfin, c'est des petits détails, il y a des vraies profondeurs, ça fait 2,50 m de profondeur, il y a des filtres sur les côtés, les orientations aussi, c'est un projet que je n'ai pas détaillé, on a orienté les vues de manière à ce qu'il n'y ait pas de promiscuité de vue d'espace de vie sur un autre espace de vie. Bon, c'est un travail d'écriture assez lent, assez patient, et qui consiste à travailler chaque objet en fonction de l'autre.
À la cause de la densité, de façon aussi à réguler l'occupation évidemment des espaces. Excusez-moi pour ma voix. Mais je trouve qu'il faut vraiment que que nous ayons un regard extrêmement pointu, précis sur ce sujet, comment aider les populations à entrer dans la densité et donc à avoir aussi une perception que la densité, c'est aussi un espace de vie viable, parce qu'on est dans une société assez individualiste dans laquelle, évidemment, je veux être dans mon chez-moi, et comment je traite le moment où je sors juste de ma porte ou j'ouvre ma fenêtre par rapport à l'extérieur. Et ça, je souhaite que vous y... Mais je sais que vous le faites, mais que vous y travaillez d'une façon attentive.
Juste un mot pour dire que dans ce projet, on peut être aidé par la densité de la végétation qu'on y apporte. Parce que je dis, ce n'est pas seulement la végétation, là, elle ne va pas être seulement un élément de décor, ce sera un élément de confort dans la mesure où elle met à distance du regard. Il faudra simplement le temps de la maturité, de la croissance des arbres pour que ça devienne effectif à 10 mètres de haut. Quoi. Voilà. À toi, Edouard.
Bonjour. Donc nous, on a le lot des 8. Comme vous avez pu le comprendre, c'est un concours qu'on a gagné sur des intentions, sur une compréhension du sujet, en montrant un certain nombre de références. Donc nous n'avons pas de projet à vous montrer.
Juste, on ne l'a pas dit, pardon, mais ce que vous dites nous y fait penser. Nos architectes ont été sélectionnés au mois de juin seulement. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de projet qui vous est présenté aujourd'hui.
Et donc nous avons eu notre top pour démarrer le 1er septembre, donc il y a 15 jours. Hein, donc on a, par rapport au
merci
concours,
d'être là.
Hein. Merci de nous avoir retenus. Donc on a, par rapport à l'oral qui s'est tenu de mémoire mi-juillet, c'est ça, un peu avancé, mais on n'a toujours pas produit de document. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est... Cette ZAC est très intéressante. Ça fait partie des rares ZAC en France qu'on pourrait appeler ZAC inspirée.
Ce n'est pas une ZAC.
Une ZAC ou une zone d'aménagement. Un secteur d'aménagement.
Ce n'est pas une ZAC, là.
Oui.
D'accord.
Cette zone d'aménagement est très inspirée. Il y a un cahier des charges qui est très intéressant. On peut penser qu'il est très contraint. Il a pas mal de contraintes. Mais il offre des invitations à la liberté qui vont certainement donner des bâtiments probablement inédits en France. Nous, la manière dont on a regardé cet aménagement, on l'explique par ce petit schéma ici, qui en fait, je pense, est au cœur de la vision de Youssef. Comment ça marche ? On a le pointeur. On a la ville de Bordeaux qui fait une arcade et qui est en arène sur Brazza. Et historiquement, c'est là où on y trouvait l'industrie et puis il y a beaucoup d'espaces verts et d'agriculture. Et moi, j'ai compris en fait l'urbanisme de Brazza comme étant le maintien de ces qualités de ce secteur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire une ville qui va regarder en fait la ville de Bordeaux, mais d'essayer de se glisser dans un espace qui a des caractéristiques plus industrielles, plus naturelles, plus matières, hein, et de telle manière à toujours garder cette espèce de débat historique qu'il y a eu entre les deux parties de la Garonne. On voit ici un peu l'univers qu'il y avait, il y a une sorte de friche qui est intéressante, et là-dedans, on va essayer de puiser des références. Je pense que ce serait intéressant, si vous vous intéressez à la ZAC, de lire les cahiers des charges de Youssef Thomé et de lire aussi le cahier des charges très intéressant de Michel Desvignes. On a là des documents extrêmement éclairants sur ce qui va pouvoir venir. Nous, on a montré un certain nombre de références. Ça, c'est des gabions de la mémoire. C'est-à-dire peut-être qu'avec certains débris, c'est ce qu'on fait. Quelque chose qu'on a fait pour un mémorial. Au lieu de démolir les bâtiments et les envoyer à la benne, on peut en fabriquer des gabions avec ces matériaux. Donc notre rapport sur les pilotis, c'est de se poser toutes les questions de déclinaison des pieds. Comment on met un bâtiment sur pilotis? Il n'y a pas que des poteaux. On peut avoir des bâtiments en champignons. On peut avoir une dalle et puis reconstruire dessus. Là, on a commencé à modéliser tout le site et on s'aperçoit qu'en fait, vu la végétation que Michel Desvignes va planter sur les mailles, les bâtiments vont très très peu exister. En fait, ils vont se voir uniquement, on verra que le pilotis. Donc le pilotis devient finalement, la sous-face et les pilotis va devenir probablement chez nous la thématique principale et en haut, on va essayer, on va tenter de faire une absence architecturale. Donc là, on a, ça c'est un certain nombre d'indications, de travail qu'on a donné sur les orientations qu'on peut avoir sur le traitement de ces pilotis. Personnellement, ce qui m'intéressait beaucoup, la matière, l'espace au sol en dessous, comment on traite le sol, comment on arrive à mettre de la végétation dedans pour avoir l'impression que tout lévite. Enfin, c'est très très riche en thématiques. On a des pilotis qui sont des bâtiments qui font 3 niveaux, des bâtiments qui sont beaucoup plus hauts, 6 niveaux. Donc on a toute une graduation. Et puis on a sur le thème du pilotis, je pense, toute la desserte. Comment on dessert ça? C'est peut-être pas un ascenseur au milieu, c'est peut-être des passerelles qui vont desservir. Ça peut être comme une espèce de village qui est desservi par des passerelles. Les volumes capables, c'était le moment un peu de bravoure de mon oral, parce que en fait j'ai appris après que personne ne sait ce que c'est. Et on m'a trouvé très brillant sur le sujet. Et quand j'ai été lauréat, on m'a dit, ben voilà, on va enfin avoir des volumes capables. Je leur ai avoué que moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Donc,
vous avez été très, très fort, alors.
Donc, on a pas mal réfléchi sur ce sujet. C'est vrai que c'est un peu la danseuse de tous les programmes de dire qu'on aimerait faire des choses évolutives. On se fait souvent coincer parce qu'on n'arrive pas financièrement à le faire. On se fait coincer aussi parce que les gens, finalement, ils n'en ont pas forcément besoin. Et là, c'est une resollicitation à l'échelle de cet aménagement, de s'intéresser à ce sujet, et je pense que c'est un beau sujet. Alors, nous, on va le prendre de la manière suivante. On a commencé à travailler un peu cette semaine. On a, dans notre programme de volume capable, on a des parkings, on a de l'accession sociale, et puis on a des artisans. Et on se demande si ce n'est pas intéressant de tout mélanger et finalement tout puisse s'étendre sur tout. C'est-à-dire que faire peut-être plus de parking et que le parking puisse servir d'extension parce que c'est une surface qu'on construit. Alors il y a plein de manières de faire des volumes capables. On peut imaginer que c'est des sortes de modules en bois et qu'on peut s'étendre sur le voisin. On peut faire des modules vides qui vont être appropriés. Donc on est en train de mettre au point actuellement tout un mécano d'extension, c'est-à-dire comment on s'étend sans avoir forcément à faire l'extension dans les combles. C'est un peu cette idée du comble aménageable aussi qui est à revisiter. Donc là, on a, je pense, pour la première fois, une sollicitation très forte de s'interroger sérieusement sur l'extension possible des logements par les acquéreurs.
Si vous permettez, je trouve votre approche extrêmement intéressante et c'est ce qui nous a séduit, c'est que dans l'esprit du volume capable, il y a l'esprit quand même de la gestion du coût des surfaces. Et donc, en gros, comment on arrive à rationaliser au moment où on va acquérir l'espace avec un coût qui soit moindre et que l'aménagement évolutif étant l'adaptation à l'évolution de la vie, comment on le traite ? Et votre propos de dire, mais dans le fond, est-ce qu'il faut seulement y réfléchir sur l'espace de vie, est un propos intéressant, parce que ça veut dire que du coup, on va sûrement pouvoir, par ce biais, limiter un certain nombre d'effets qui font partie de l'enjeu, qui est l'aspect aussi, évidemment, économique.
Voilà, donc on est dans la mise au point du mécano, ça va donner forcément des choses intéressantes, parce qu'on a cette liberté d'interroger un sujet qui souvent est complètement, dès l'origine, fermé. Le parking silo, donc voilà. Je pense que le parking silo peut servir aussi de volume capable. Donc c'est assez intéressant de se dire peut-être qu'on va faire un peu plus de parking et on va s'étendre dans le parking. Donc on va rendre tout possible. Et il y a aussi une chose qui est, je pense, de grande actualité qui se joue là-dedans. On a supprimé le COS en France. Et donc, cette sanction de dire « oui, mais on ne peut pas étendre le logement en construisant son balcon parce qu'il y a un COS », c'est fini. Donc, il suffit de trouver des systèmes qui gèrent formellement des extensions, des appropriations individuelles pour arriver à maîtriser parfaitement le processus. Et on va essayer de le maîtriser le moins formellement possible, c'est-à-dire pas trop le dessiner, en laissant des formes d'appropriation individuelles qui vont donner une espèce de nouvelle favela agricole, forestière.
Attention aux mots qu'on utilise.
Voilà, on a amené quelques références sur des pilotis. Ça, c'est un concours dans les salines, dans des salines en Camargue. Et on a été lauréat du concours. Et puis, juste le soir même, la Camargue a été totalement inondée. Et le maire a pris un autre projet qui avait tout endigué. Donc, le pilotis, c'est une thématique délicate. Pour mémoire, ici, dans la zone de Brazza, les bâtiments sont surpilotis, non pas pour des raisons formelles. La zone, et c'est intéressant, maintient et garde son caractère inondable. Donc, elle est inondable, pas beaucoup, mais plutôt que de tout endiguer et de nier, en fait, cette possibilité qu'a la Garonne de déborder temporairement d'une manière peut-être tous les 50 ans, on le garde. Et donc, il y a cet aspect-là, on va sentir, en fait, la proximité de l'eau. Ça, c'est d'autres références, le bâtiment de Montpellier avec des pilotis, avec des arbres que j'ai plantés en dessous et qui prennent à califourchon les poteaux. De l'autre côté, c'est le bâtiment de commandement de la station d'épuration de la ville de Nantes. Et ça, sont les références de mes associés, Aldebert Verdier, qui sont là, et puisqu'on a été choisis en groupement tous les deux. Si vous voulez dire un mot, Audrey.
Voilà. Bonjour, oui, nous on complète l'équipe et les réflexions qu'on portait au début à l'oral sur, pour compléter ce que tu dis sur les entre-deux, ce qu'il y a de beau dans le projet urbain de Youssef Thomé et Devine, ce qui nous a séduit, c'est ça, c'est aussi les parcours, les entre-deux, ces fameuses sous-faces. Et donc voilà, nous, nos références, on a accès. On a mis l'accent sur des références qui traitent de l'espace partagé, de l'espace avant de rentrer chez soi, entre l'intime et le public. Voilà.
Ouais, quelques autres références pour finir. Ça, c'est à Paris. Ça, c'est de la ganivelle. C'est des matériaux assez intéressants que j'ai fait en Normandie. Ça, c'est un très vieux bâtiment qui est dans des haies en végétation. Donc, on va pouvoir déployer peut-être des bâtiments végétaux qui sont des bâtiments qui se verront moins. Donc, ça, c'est un bâtiment à Bruxelles, ça, c'est à Paris, en bois, avec des tuteurs envahis de glycine. Ça, c'est du pilotis que je viens de finir à Ris-Orangis. C'est un bâtiment assez intéressant. J'ai dessiné un cube un peu miséreux que j'ai habillé de comment on appelle ça de la tuile mécanique, très ordinaire. Et puis j'ai fait le parking, j'ai arraché le tout, donc on voit le parking qui devrait être en sous-sol, qui s'exprime, avec un travail sur l'absence de poteaux, donc l'empilement, il y a des thèmes comme ça qui sont dans Brazza. Voilà, je pense que compte tenu de l'intérêt et de l'énergie qui est mise par tout le monde, la ville, Youssef Thomé, Domo France et les architectes, ça donnera certainement l'objet de communiqués, de maquettes, dans les 6 mois à venir. Voilà. On a un programme un peu accéléré. Il y avait un petit mot sur le calendrier, parce qu'on a, des financements à obtenir assez vite d'ici la fin de l'année, donc il va nous obliger à travailler en accéléré. Et je pense qu'on a un dépôt de permis qui va se finir à la fin de l'année. Voilà. Donc on est tous en marche.
Je sais pas, il y a des questions sur ces interventions. N'hésitez pas.
Ou même des avis.
Ou des avis. Non, personne. Est-ce que je peux peut-être... Ah oui. Ah non, pardon. Voulez-vous détendre. Ce que je pourrais peut-être vous repréciser, puisque je disais tout à l'heure, ce n'est pas une ZAC, ce n'est pas une zone d'aménagement concerté. Ce que je peux peut-être vous repréciser, c'est qu'on agit, je dirais, dans le cadre d'un plan masse qui a été déterminé donc, par Youssef Thomé et l'atelier de Brazza. On est sur un mode d'urbanisme qu'on va qualifier de négocié, très participatif. C'est de cette manière, par exemple, que c'est fait, que ce sont en train de se faire les bassins à flot. Donc on a bien un cadre, on a bien un plan masse. Mais il y a quand même une place quand même qui est laissée vraiment à la négociation. Et toutes les décisions sont prises dans le cadre de l'atelier de Brazza, où chaque opérateur présente son projet, chaque projet est regardé, critiqué, validé. Et donc, il y a vraiment un jeu d'aller-retour, de va-et-vient qui va se faire entre les équipes de concepteurs, évidemment le maître d'ouvrage, Domo France, et je dirais la collectivité. Voilà.
Est-ce que c'est l'espace public, collectif ou déjà privatisé ?
A priori, c'est semi-public. Il y avait un projet très très généreux à l'origine avec une totale polarisée, mais après, non, c'est privé, c'est clôturé, il y a des clôtures qui sont transparentes. Il y a une gestion par contre des eaux, c'est-à-dire que l'espace n'est pas clôturé en clos de manière au sens de l'écoulement de l'eau, il faut toujours qu'il y ait des porosités parce qu'il peut y avoir une inondation, il faut ensuite que ça puisse se revider. Donc il y a des porosités, il y a des porosités visuelles, mais c'est de l'espace privé. Quoi. Parce que sinon, ça pose le problème de l'usage sous les pilotis, les appropriations, ça pose tout ça. C'est de l'espace qui est régi par des règlements de copro. Et après, par contre, il y a des... c'est sûr qu'on rêve tous d'un espace public comme ça, continu et naturel, mais qui était difficile à régler au regard des sessions de parcelles et puis des propriétés. Comment ? Oui, en fait, les grandes, il y a des très grands mailles, on les voit. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'exploiter ces grandes allées de peupliers qui sont qui figurent une trame agricole, mais extrêmement épaisse et qui introduisent les perspectives de la voie ferrée vers la Garonne. Quoi.
Où évidemment les populations vont venir y vivre, c'est un sujet extrêmement important. Et ce qu'on constate, nous, on l'a vu par le passé, c'est le fait qu'on est passé d'un statut, entre guillemets, plus ou moins ouvert et public, à un statut où on a dit qu'il faut résidentialiser nos espaces. Mais je crois qu'on se rend compte avec le temps que ce n'est peut-être pas la meilleure solution et qu'il faut plutôt passer par un apprentissage pour les occupants à ce qui relève de l'espace semi-public et de ce qui relève de l'espace privé. Et monsieur l'architecte, quand vous dites on rêve tous d'un espace ouvert public, on rêve chez les autres, oui, de cet espace public ouvert, surtout si on ne l'a pas à soi-même l'emprunter. Donc je pense qu'il faut forcer un peu sur cette question, et je crois que vous aurez un rôle important, et vous l'avez dit les deux tout à l'heure, dans la délimitation de ces espaces et le fait qu'il y ait d'emblée, quand les populations vont arriver, une reconnaissance, ça je suis dans cet espace semi-public que je partage et cet espace-là est un espace privé. Je pense qu'il faut qu'on... Il y a un gros travail bien évidemment à faire là-dessus et votre question est complètement pertinente. D'autres questions ou avis ?
Vous avez parlé de possibilités d'extension par les acquéreurs, de modulation, etc. Qu'en pense le maître d'ouvrage ? Est-ce que ça ne lui semble pas trop compliqué ? Est-ce que ça peut changer des choses en termes de prix de vente ou...
Alors vous, vous touchez, là aussi, vous touchez du doigt le vrai problème, c'est que c'est un modèle qui aujourd'hui n'existe pas vraiment, en tout cas pas sous cette forme. On est réaliste, on sait que ça ne va pas être simple. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre architecte qui a présenté quelque chose où on n'était pas seulement dans une modularité interne, c'est-à-dire que en fait, les évolutions ne se passent pas seulement à l'intérieur de l'espace, c'est aussi intéressant. Je ne vous cache pas qu'on appréhende le sujet des acquisitions, notamment, avec un peu de réflexion. Parce que le modèle que nous, on connaît, c'est le modèle de l'acquéreur qui veut vivre le plus rapidement possible dans l'espace qu'il souhaite. Donc, en fait, on n'est pas encore culturé, si je puis dire, sur la question de l'évolution dans la vie, c'est-à-dire comment je me projette dans X années et quelle sera ma vie et comment je devrais adapter mon volume. Aujourd'hui, hélas... excusez si je choque, mais on est plutôt dans une modélisation économique. On dit, ça va coûter tant, alors est-ce que j'aménage tant ? Et ça aussi, c'est un apprentissage qu'il faudra mettre en œuvre avec le temps. Et ça va se faire, mais pour nous, ça ne va pas être simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais on est aidé par pas mal de choses qui se bougent actuellement, notamment... Il y a un nouveau statut pour la construction, qui sont la construction participative. Donc, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à la fabrication de leur logement. C'est-à-dire c'est des sociétés coopératives dans lesquelles un certain nombre de personnes, d'amis qui désirent construire, se réunissent. Ils prennent un architecte, ils discutent, ils s'impliquent, ils disent « nous, on voudrait ça, comme si, en paille », et dans lequel les gens commencent à s'intéresser à la fabrication du logement. Et je pense que les volumes capables, c'est un autre chemin qui mène aussi vers l'intérêt participatif des gens à fabriquer eux-mêmes leur cadre de vie, ou du moins à s'y impliquer.
Questions ou expériences similaires, ou peut-être vous avez déjà vécu ce genre de projet.
Bon, je pense que moi j'avais essayé de faire une expérience un peu comme ça, et on ne l'a pas mené à bout, mais ça avait suscité beaucoup d'intérêt. C'est une tour à Nantes, et j'avais dit chacun fait sa façade, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des balcons périmétriques autour, et comme le balcon regarde la partie privative, j'avais mis un cahier des charges et le promoteur avait trouvé ça très intéressant d'avoir une espèce de monticule très personnalisé dans lequel si quelqu'un voulait mettre du bois, il mettait en bois, l'autre pas. Et le bâtiment était végétalisé, donc en fait le végétal qui englobait en fait l'extérieur des balcons était considéré comme la façade. Et donc la partie intérieure n'était donc un espace plus privatif et relevait d'une sorte de papier peint à l'échelle de la propriété de l'habitant. Donc ça, des idées comme ça, je les ai testées avec une ville, avec des aménageurs et avec des promoteurs, en l'occurrence le groupe Gibois, et c'est des idées qui sont dans l'air du temps et qui peuvent marcher.
Je pense qu'on peut imaginer que dans certains îlots, on pourrait éventuellement, dans la mesure où on aurait déjà évidemment, on se serait projeté sur une réservation de la part de clients potentiels. On peut imaginer, évidemment, aborder le sujet un peu en amont, pas sur le volume lui-même, mais en tout cas sur les adaptations possibles à l'écoute des clients.
Avec des cahiers des charges, là, c'est pas tout et n'importe quoi.
Bah écoutez, si on est au terme de cet échange, merci encore pour votre présence et on espère vous avoir tous un peu éclairé sur notre projet. Merci.
Merci bien.